faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Oui, l'œil du tigre.
Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur.
Now, ladies and gentlemen, from Louisville, Kentucky, wearing black tie, Mr. Cassius Marcellus Clay.
Cassius Clay, devenu Mohamed Ali, boxeur légendaire, boxeur insoumis, icône populaire, mort en 2016, quelques mois seulement avant l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis. Aujourd'hui, en 2020, alors que ce mandat présidentiel chaotique touche à sa fin, le fantôme de Mohamed Ali hante l'Amérique et il n'est pas impossible que son spectre s'invite dans cette nouvelle campagne électorale qu'on devine déjà virulente et pugilistique. Deux Amériques face à face, deux visions du monde sur le ring. Et alors, ce soir, pour évoquer l'exubérance politique et les colères noires de Mohamed Ali, deux invités au micro d'Inter. Tout d'abord, elle est journaliste, écrivaine et elle a produit pour France Culture une excellente série documentaire consacrée à Mohamed Ali, devenue un livre. Judith Pérignon, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous. À vos côtés, il est historien, fin spécialiste des États-Unis et grand connaisseur de la communauté afro-américaine. Pape Ndiaye, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous, Pape, également. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport ce soir, le boxeur insoumis, un autre regard sur Mohamed Ali.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, cette semaine, on débute avec une illustration assez cocasse du caractère provocateur, mais aussi farceur de Mohamed Ali. Sachez qu'à la fin des années 70, au sommet de sa notoriété, le boxeur a essayé de devenir acteur et il fut même invité au Festival de Cannes. Nous étions en 1978 et voici ce qu'on trouve dans les coursives de l'INA, un Mohamed Ali dans toute sa splendeur.
Mohamed Ali a présenté hier soir à Cannes le film dont il est la vedette, La Route de la Liberté. Western à la sauce Spartacus, déroulant à l'époque de haut temps en emporte le vent. Après avoir comparé ses anciens adversaires sur les rings à des lapins, des gorilles, ou bien encore des vampires, Mohamed Ali s'est déclaré être le nouveau Clark Gable noir. Et le plus sérieusement du monde, il nous donne à présent sa définition de l'humour.
Happy when they're angry.
Quelqu'un qui peut avoir l'air joyeux quand il est en colère.
Somebody who can be excited but stay calm.
Quelqu'un qui peut être excité mais rester calme.
And that's me.
Et moi.
Êtes-vous un aussi bon acteur sur l'écran que sur un ring?
Are you as good an actor on screen as you are in a ring?
I'm better on the screen.
Je suis meilleur encore à l'écran.
And I'll predict I'll one day be known as the greatest actor of all time.
Et je prédis que je serai bientôt le plus grand acteur
now
de tous les temps.
Now I shall show you my Dracula look.
Et je vous montre mon regard Dracula.
This here's the story of Cassius Clay. Catch me if you can. My
floats like a butterfly and stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy, I'm Ali. Catch me if you can.
Black Superman, un titre signé Johnny Weckling, 1976. Une chanson préambule à l'histoire du dimanche soir. Mohamed Ali était boxeur. Voilà une réalité tangible. Pour le reste, Ali fut tellement grand, tellement imposant, tellement mythologique, qu'on ne parvient plus à savoir qui il fut vraiment. Chacun voudrait se l'approprier pour ensuite le contenir à ce qu'on voudrait qu'il soit. Ce serait trop simple. Si Ali fut si grand, c'est bien parce qu'il a fini par comprendre qu'il fallait échapper aux cases et aux schémas. Ali a décidé qu'il n'appartiendrait à personne. Seuls ceux qui l'ont approché de près, comme le journaliste américain Robert Lipsight, en ont conscience. Ali n'a cessé de bouger, comme sur le ring.
Well, for many years, he was a puppet.
Je crois qu'il a en effet été un pantin pendant de nombreuses années. Il était sous l'emprise de l'honorable Elijah Muhammad. Et n'oubliez pas qu'on parle de quelqu'un qui avait à peine fini le lycée. On lui avait plus ou moins donné le bac en récompense de sa victoire aux Golden Globes. Il était illettré, ignorant. Depuis qu'il avait 12 ans, il ne vivait que pour la boxe. Il a mis du temps à s'ouvrir au monde et à le comprendre. Et bien des années plus tard, il m'a dit qu'il regrettait d'avoir rompu avec Malcolm. Et qu'il était resté trop longtemps sous l'emprise de la Nation of Islam. C'est quelque chose qui me fascinait chez lui, cette capacité à mûrir et à changer. C'était un personnage public extraordinaire, mais il continue à évoluer. Et par une étrange ironie du sort, tout s'est arrêté lorsque cet homme tellement loquace s'est soudain transformé en masque et n'a plus pu parler.
Judith Bérignon, ce témoignage est tiré de votre excellente série documentaire consacrée à Mohamed Ali, produite par France Culture, diffusée à l'été 2018. Vous en avez tiré un livre, L'Insoumis, aux éditions Grasset, une lecture passionnante. Ce Robert Lipsight, qu'on vient d'entendre, ouvre votre livre avec une anecdote savoureuse à propos de Mohamed Ali. Vous pouvez nous la raconter pour commencer ?
Oui, à l'époque, il est stagiaire, correcteur au New York Times et personne ne mise sur le jeune Cassius Clay, donc on va pas envoyer le rubricard, on envoie le stagiaire, on lui explique qu'il va falloir suivre le pauvre Cassius Clay à l'hôpital. Voilà, il arrive, il est totalement néophyte, il connaît pas cet endroit ni la boxe, et il se retrouve comme ça coincé dans un vestiaire avec quatre jeunes types qui se présentent, mais dont il sait pas trop non plus qui c'est, John, Paul, Ringo, et en fait voilà, il est avec les jeunes Beatles qui préparent leur invasion aux États-Unis, et ils attendent la séance photo avec Cassius Clay, qui finit par ouvrir la porte. Et là, il dit cette chose, j'oublierai jamais quand il nous a dit ça, j'ai vu la plus belle créature que j'ai jamais vue de ma vie. C'était donc Cassius Clay. Et il dit aussi, les années 60 commencent. C'est oui. La connexion, les Beatles, Mohamed Ali. Et je crois qu'il a raison, c'est un moment marqueur, la pop culture, les années 60, l'explosion de la jeunesse, commence aussi avec cette image-là, cette photo-là de Mohamed Ali.
D'ailleurs,
et
on
Beatles.
Peut voir les photos et la séance sur Google ou sur Internet, il faut taper Mohamed Ali Beatles et on trouve les photos qui sont exquises. Vous venez de dire une chose très juste, Judith, il dit, Robert Lipsight, qu'effectivement c'est pour lui à ce moment-là peut-être que les années 60 commencent. Et là, Pape, je me retourne vers vous, Pape Ndiaye, vous êtes historien, fin connaisseur des États-Unis. On en est où, Pape, à ce moment-là? Donc en février, janvier 64, des droits civiques aux États-Unis. Où on en est de la lutte des droits civiques?
Alors le mouvement bat son plein d'une certaine manière, puisque les grandes mobilisations orchestrées par Martin Luther King ont lieu depuis 1956 et le boycott des bus de Montgomery. En 64, en juillet 64, ce sera la loi qui interdit la ségrégation dans le sud des États-Unis. Et en août 65, un an et demi après, la possibilité à nouveau pour les Africains-Américains de voter, ce qu'ils ne pouvaient plus faire depuis la fin du 19e siècle. Donc on peut dire à ce moment-là que la question africaine-américaine, la question des droits civiques, des Noirs américains fait la une de l'actualité, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les grands sportifs se mobilisent de façon évidente. Le monde du sport est plutôt prudent sur ces questions. Jackie Robinson, par exemple, est en retrait, sans parler de Jesse Owens. Et donc, évidemment, l'irruption politique de Mohamed Ali au début des années 60 va doublement compter.
Et donc, du coup, je rebondis, pas parce que le livre de Judith commence sur un match important de février 64 entre Cassius Clay à l'époque et donc Sonny Liston, autre afro-américain boxeur. Match très important, il est champion du monde, on pense qu'il va se faire démolir, Cassius Clay. Mais quel est le symbole de ce match, justement, à l'égard de ce que vous venez de dire, Pat?
Sonny Liston, c'est le grand champion de l'époque. Il n'est pas politiquement engagé, il est plutôt lié à la pègre, à la mafia de l'époque. Et en cela, il est héritier d'une longue tradition des liens entre la boxe et la pègre. Et en cela, Mohamed Ali, qui est quand même champion olympique
en 60 à Rome
des Milours et qui a déjà une série de victoires derrière lui, est là pour faire tomber un champion qui a une réputation plutôt sulfureuse et qui, d'un point de vue politique, n'est absolument pas lisible.
Ça, c'est très important. Une réaction, Judith Mérignon.
Oui, et je dirais que là, Sonny Liston, c'est l'image de la brute noire, telle que le spectateur de boxe l'aime, le noir, le blanc aussi. Alors que Mohamed Ali est en train de créer autre chose, une espèce de fierté, une espèce de black is beautiful. Il a déjà fait la une des journaux sans avoir rien gagné parce qu'il écrit des poèmes. Il parle avant même d'être champion. Ce que ne fait pas Sonny Liston, c'est un mutique, c'est une brute. On lui demande de cogner, de faire saigner sur le ring et puis ça s'arrête là. Donc une autre figure émerge, beaucoup plus fière. Black is beautiful dit juste le corps et les poèmes de Mohamed Ali, Cassius Clay à cette époque.
Et donc le 25 février 64, le match a lieu et à la surprise générale, Cassius Clay met au tapis Sonny Liston au septième round. Et dès le lendemain, Judith, il fait une conférence de presse, Cassius Clay. Et qu'annonce-t-il au journaliste qui va sans doute choquer l'Amérique profondément?
Ben, il finit par répondre aux plus jeunes journalistes très insistants parce qu'il a des fréquentations. Il y a Malcolm X qu'on a vu au fauteuil numéro 7 dans la salle, qui a même fait la prière avec lui dans le vestiaire. Il y a ces black muslims qui tournent autour de lui. Donc à un moment, les journalistes lui demandent « Bon alors, c'est quoi vos relations ?» Et très vite, il finit par lâcher qu'il aime bien les black muslims. Qu'il est quasiment avec eux. Il a des petites prudences de vocabulaire parce qu'il aime sa popularité aussi et ça va être un déchirement tout le temps. Mais que voilà, il croit à ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'en gros, le noir ne peut pas vivre avec le blanc, que ce que Martin Luther King cherche n'est pas possible. C'est la théorie des black muslims. Donc il dit, le lion vit avec le lion, l'oiseau vit avec l'oiseau. Moi, je suis d'accord avec mes frères musulmans, on ne peut pas vivre avec l'homme blanc, il ne veut pas de nous. Et là, c'est le champion du monde, l'homme le plus populaire. Enfin, c'est une figure, le champion du monde de boxe aux États-Unis. Tout à coup, il annonce, le lendemain de sa victoire, qu'il a rejoint un mouvement très radical et très suspect pour les Américains. Donc, gros coup de tonnerre.
Quel est ce mouvement, Pape
Ndiaye? Donc, c'est Nation of Islam, qui, en effet, est un mouvement honni de la presse américaine et puis du monde politique en général à ce moment-là. Qui a été fondé à Detroit dans les années 30, pris en main assez vite par Elijah Muhammad, ce personnage assez falot finalement, très mauvais orateur mais très bon organisateur, qui construit Nation of Islam comme une secte finalement qu'il dirige d'une main de fer. Et puis Malcolm X se convertit à l'islam en prison, il rejoint Nation of Islam, il en devient le porte-parole éloquent, brillant, charismatique. Il fait de l'ombre d'ailleurs à Elijah Muhammad. Et au moment du combat, au moment de ce rapprochement entre Mohamed Ali et puis Malcolm X est particulièrement visé puisque John Kennedy a été assassiné quelques mois auparavant et Malcolm X avait eu des mots extrêmement sévères à l'issue de l'assassinat de John Kennedy. Bref, c'est un scandale absolu que ce rapprochement entre une idole de la boxe et puis un mouvement et singulièrement un Malcolm X qui est vraiment vu comme le diable incarné.
Judith, le scandale va se cristalliser plus encore avec le changement de nom de Cassius Clay. Il va s'appeler Mohamed Ali. On peut expliquer pourquoi ce changement, Judith ? C'est important de rappeler
c'est,
ça aussi.
C'est Elijah Muhammad qui annonce à la radio depuis Chicago le siège de Nation of Islam, qu'il rebaptise Cassius Clay, puisque les Afro-Américains à l'époque, leur patronyme est souvent hérité du maître, le maître qui régnait sur les plantations et ses esclaves. Les esclaves portaient le nom de leur maître. Donc Clay
est le
nom
du sénateur Clay
du Kentucky qui a possédé la famille, les ancêtres de Cassius Clay. Et donc d'ailleurs Malcolm X, il s'appelait X parce que il avait rayé son patronyme Little pour mettre ce X à la place de ce patronyme hérité de l'esclavage. Donc devenir Mohamed Ali avec ce que ce prénom et ce nom signifient dans l'ordre musulman, c'est lui donner une toute autre histoire, c'est effacer l'histoire, l'héritage de l'esclavage et le faire renaître, c'est une renaissance.
Et c'est le nom d'un homme libre.
Et c'est le nom d'un homme libre et
esclave,
fier.
Absolument.
Et fier.
Mais pas bon, on imagine le choc pour l'Amérique, on va dire blanche, y compris un peu tout le monde, j'imagine, de voir ce grand champion à la fois changer. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de mal à faire accepter ce nom dans la presse. Hein. Beaucoup de journalistes ont été, même y compris en France, on ne voulait surtout pas l'appeler Mohamed Ali, il s'appelait Cassius Clay, point barre. Ça a été aussi un combat pour Mohamed Ali de faire changer son nom dans les mentalités.
D'imposer ce nom à la presse, à l'Amérique, au reste du monde, y compris à des boxeurs, à certains de ses adversaires qui s'obstinent à l'appeler de manière provocatrice Cassius Clay pendant plusieurs années, manière évidemment d'effacer ce choix qui est à la fois un choix religieux, mais aussi un choix politique extrêmement fort. Mohamed Ali choisit de se situer sur l'aile radicale, si vous voulez, du mouvement pour les droits civiques. Et en cela, bien sûr, il contraste avec un Martin Luther King, par exemple. S'il avait manifesté sa solidarité avec King, tout le monde aurait applaudi.
Bien sûr. Au fond.
Là, il choisit un groupe qui est un groupe plus radical, avec en plus cette figure éminemment controversée de Malcolm X.
Alors justement, Malcolm X, vous en parlez très bien, Judith Perrignon, il y va y avoir une sorte de chassé-croisé au sein de Nation of Islam, puisque au moment où Malcolm X va quitter le groupe, Mohamed Ali lui entre, là ils vont se croiser, ils vont au départ s'apprécier puis se brouiller, ça vous a touché parce que vous dites qu'ils étaient très complémentaires et cette brouille-là, elle vous touche, vous Judith Perrignon.
Ah oui, ils ont un lien magnifique, on trouve trace de ça dans les écrits de Malcolm X qui voit quelque chose de complémentaire, qui voit un jeune frère un peu brouillon.
Pourquoi
un peu
ils sont
fou.
Complémentaires ?
Ben, y a l'austérité, il y a le ministère de la parole par Malcolm X, et il y a le corps sur le ring, la fougue de Dali, tout ça peut parler à la population noire de manière très large et très forte, par le corps, par la voix, par les mots, il y a la joie et l'austérité, il y a tout à eux deux. Et c'est vrai que quand il annonce qu'il rejoint Nation of Islam, donc le lendemain de ce match, en fait, si Malcolm X est là aussi, c'est qu'il fuit, qu'il l'accompagne, mais qu'il fuit New York, il est en train de fuir ce mouvement qui condamne et qui condamne parfois à mort toute personne qui désobéit et qui met en cause Elijah Muhammad. Donc il est déjà certain que certaines personnes veulent sa mort. Et donc Mohamed Ali va se retrouver à un moment à embrasser un mouvement qui veut tuer un de ses meilleurs amis. Mmh. Et donc le déchirement d'Ali, j'ai relu cette histoire, effectivement, j'ai relu tout en préparant ce livre et cette émission, et jusqu'au bout, c'est comme si j'espérais encore un dénouement positif, je voulais absolument les réconcilier.
Une réunion. Ouais. Il y a aussi une forme de cynisme chez Nation of Islam, parce qu'il condamne beaucoup de choses, y compris l'entertainment, le show-off, le cabotinage, mais récupérer Mohamed Ali, c'est une opportunité inouïe pour Nation of Islam. Donc en fait, ils acceptent que Mohamed Ali soit un peu show-off et cabot parce que ça porte tellement la cause que ça finit par... C'est comme un conflit intérieur en réalité pour Nation of Islam.
Oui, au moment où Malcolm X s'éloigne de Nation of Islam, et puis d'ailleurs, il quitte les États-Unis rapidement après le match, il va passer l'essentiel de l'année 1964 à voyager dans le monde, en Afrique,
notamment
en Europe.
Au Ghana, avec une tournée triomphante. Hein.
Oui, et puis en Égypte, et puis en France aussi, en Grande-Bretagne. Donc à ce moment-là, Nation of Islam a besoin d'une autre figure charismatique. Et au fond, Mohamed Ali est là. Et même si, à l'évidence, Elijah Muhammad ne connaît rien et n'aime pas la boxe, c'est une figure de proue qui est vu comme absolument essentiel pour l'organisation. Et donc, il est tenu de façon assez serrée, en quelque sorte, à partir de début 1964, au moment justement où Malcolm X s'éloigne.
D'ailleurs, on a évoqué cette tournée, là, Papa Ndiaye, au Ghana. C'est vrai que c'est un triomphe. Il arrive sur le continent africain, il devient le héros de toutes les communautés noires. C'est-à-dire que dès... Il faut bien comprendre l'enjeu de ce combat hein, contre Sonny Liston en 64, c'est que tout d'un coup, il change de statut. Il était un boxeur poète, intellectuel, champion olympique à Rome en 60, mais là, il devient champion du monde des poids lourds américains. Enfin, il devient une icône populaire mondiale. Dans les... Et en fait, ça échappe aussi, ça, sans doute, à Nation of Islam.
Oui, et ce qu'il représente, au fond, c'est bien au-delà... de son art, la boxe, qu'il porte à un niveau extraordinaire, peut-être même au-delà du monde noir américain, il y a quelque chose qui est diasporique, qu'il représente comme une forme de diaspora africaine, l'ensemble des peuples qui, à ce moment-là, sortent de la colonisation. On est aussi au début de l'indépendance de pays aussi prestigieux comme le Ghana de Nkrumah, avec les perspectives panafricaines qui sont les siennes à ce moment-là. Et donc, on est aussi au début des années 60, dans une époque où l'Afrique n'est pas encore tombée dans la crise politique et économique des années 70. Il y a encore de l'espoir.
Oui,
il y a encore
un
grand espoir de changer le monde, de
et Mohamed Ali
retourner
porte
l'histoire.
Ça aussi. Et il porte ça,
cela
évidemment,
de
un grand espoir. Un grand espoir.
De façon extrêmement brillante, à la fois par ses points, il révolutionne la boxe aussi d'un point de vue technique, et puis aussi par son verbe.
Judith Pérignon.
Il n'y a pas que Nation of Islam qui ne comprend pas ce qui va se passer, il y a les médias aussi, parce qu'il n'y a pas de trace sonore de cette visite de Mohamed Ali au Ghana, alors que c'est un moment où se cristallise quelque
personne
chose
ne
de
le
très
suit.
Fort. Personne ne
comprend. Personne ne s'est dit, on va aller voir Ali qui rentre entre guillemets en Afrique. Personne ne va le voir, alors qu'en fait, il aurait fallu y aller, parce qu'on n'a aucune trace sonore ni visuelle de ce voyage.
Et quel manque, quel vide. D'habitude, les champions font une tournée européenne. Lui, il part en Afrique parce que la communauté afro-américaine, elle est en train de chercher ses sources africaines.
Évidemment, on va parler dans la seconde partie de la guerre du Vietnam, parce que voilà encore une insoumission de Mohamed Ali. Pour l'instant, il est 18h33 sur Inter. On va continuer à causer du fantôme de Mohamed Ali, juste après le retour de l'orchestre, emmené cette fois par James Brown, frère d'âme du boxeur insoumis. Le titre joué, Cold Sweat, Ainsi soit-il.
I don't care about your past.
Cassius Clay, pour certains, est un personnage étrange. Il apparaît aux uns prétentieux et antipathique, d'autres voient en lui l'apôtre de la non-violence
mais aussi un homme aimable, parlant de son amour des enfants et de son intention de se retirer et d'écrire des poèmes.
Philippe Collin sur France Inter.
Mohamed Ali, l'insoumis, c'est la trame de cette excellente série documentaire produite par la journaliste Judith Pérignon et diffusée sur France Culture en 2018. L'idée de départ consistait à aller à la rencontre des personnes qui avaient côtoyé le boxeur star dans cette Amérique bouillonnante des années 60. Parmi elles, Judith Pérignon a interviewé Jonathan Haigh, un écrivain qui s'est souvenu d'une anecdote survenue à Chicago durant l'été 1966.
Martin Luther King essayait d'exporter son action dans les villes industrielles du Nord. Et il avait organisé une grève des loyers à Chicago. Les résidents des logements les plus vétustes avaient cessé de payer leur loyer et versé l'argent sur un compte bloqué auquel les propriétaires n'auraient accès qu'après avoir accepté de faire des travaux de rénovation. Un jour, cette femme qui travaillait comme bénévole pour le révérend King a appris qu'une de ses clientes était expulsée de chez elle. Normalement, les propriétaires n'avaient pas le droit d'expulser les gens tant qu'ils continuaient à verser leur loyer sur ses comptes bloqués. Elle s'est donc précipitée sur place, à West Garfield Park, pour voir ce qu'il en était. Il faisait très chaud ce jour-là, et quand elle est arrivée, toutes les affaires de la femme était sur le trottoir. Ses meubles, ses vêtements, ses photos de famille, tout était entassé sur le trottoir. Mais il y avait des centaines de gens dans la rue qui observaient la scène sans savoir quoi faire. Soudain, la bénévole a senti une présence imposante derrière elle. Elle s'est retournée et c'était Mohamed Ali. Il a retiré sa veste de costume bleu et l'a lui attendue. Vous pouvez me tenir ça, s'il vous plaît. Et sans un mot, il est allé prendre une chaise qu'il a rapportée à l'intérieur de l'appartement. Et tous les badauds, les fans de Mohamed Ali et les voisins ont commencé à ramasser les affaires de la dame pour les remettre chez elle. Les policiers chargés de l'expulsion n'ont pas réagi. Bah, ils ont laissé faire. Ali n'a rien dit. Il est remonté dans sa voiture et il est parti.
Judith, j'ai voulu qu'on écoute cet extrait parce que je trouve qu'elle offre aussi une autre facette de Mohamed Ali qui n'est pas qu'arrogance, provocation, show-off, cabot. Il y a aussi chez lui un authentique souci des autres. Ce qu'on entend là le prouve, et dans une grande discrétion. C'est-à-dire que, oui, effectivement, il fait le show, mais quand il faut agir, Ali agit.
Oui, oui, il agit, il est vraiment... vraiment pénétré de la ségrégation. Il l'a subi enfant à Louisville.
Il faut le rappeler, en fait. Voilà.
Il sait ce que c'est que de ne pas pouvoir rentrer dans un restaurant, de ne pas s'aller dans certains quartiers. Son père portait une vraie colère sur ces sujets-là. Donc, et dès qu'il peut faire un geste, il le fait. Et d'ailleurs, son exubérance ne va pas contre ça. Je pense qu'il, même quand il dit n'importe quoi, pour moi, ça veut dire, j'ai le droit de dire n'importe quoi. Je suis quelqu'un qui n'a pas la parole, ben je vais justement dire n'importe quoi, moi qui n'ai pas la parole. Et donc, il pousse très loin, mais ça va du simple geste, comme rapporter comme ça ses meubles à l'intérieur, qui est une très belle scène que j'ai vue dans la série.
C'est très beau.
Et jusqu'à ses mots, à ses rires, à ses provocations. Et tout ça forme un ensemble et une cohérence d'un homme qui a vraiment voulu œuvrer et défendre sa communauté.
Pape Agnès, je rappelle que vous êtes historien et donc le contexte est essentiel dans ce registre de l'histoire. L'autre grand élément contextuel de cette décennie, c'est la guerre du Vietnam, évidemment. Mohamed Ali va être convoqué, mobilisé, mais il va refuser de participer à ce combat parce que, dit-il, aucun Vietcong ne l'a jamais traité de sale nègre, ce qui est quand même une phrase très forte aussi dans cette Amérique des années 60, j'imagine. Quelle a été la réception par l'Amérique de ce choix de Mohamed Ali, en plus de ne pas aller combattre avec les GI au Vietnam?
Après la conversion dont on a parlé, le refus de partir au Vietnam, c'est l'autre scandale.
Et oui.
Donc là, c'est en 1966, et c'est un refus qui surprend, puisque Mohamed Ali n'aurait pas combattu en réalité. Il aurait fait des matchs d'exhibition pour le moral des troupes. Mmh. On l'aurait promené à droite et à gauche et puis il serait rentré tranquillement à la maison. Mais il refuse d'être promené par l'armée américaine de cette manière. Et évidemment, compte tenu de sa conversion, de sa proximité avec Nation of Islam, on lui tombe dessus. Et les autorités ne lui font pas de cadeau et engagent dès lors une procédure qui est une procédure classique, hein, qui vise celles et ceux qui ne veulent pas rejoindre l'armée, puisqu'on est à l'époque de la grande mobilisation à partir de 66-67.
1947 pour le Vietnam. Et Mohamed Ali va donc subir les foudres de la justice militaire et être condamné à faire de la prison pour cela.
Je dis, ce qui est intéressant dans votre livre, entre autres, c'est de constater à quel point le mythe et écrase les détails. J'entends par là que c'est une icône aujourd'hui mondiale, il y a des posters partout de Mohamed Ali, c'est Mohamed Ali. Voilà. Mais quand on regarde cette histoire, on a oublié la traque du FBI, on a oublié la foule qui le hue pour ces raisons-là. Il était maudit, il était honni, Mohamed Ali. On l'oublie très facilement quand même, ça.
Oui, quand vous regardez tous les matchs, même 64, 65, la foule le hue à chaque fois qu'il monte sur le ring. La presse ricane. Il y a des mots d'une violence, d'un racisme. Et là, je parle de la presse mondiale.
Oui, bien sûr. Non,
la presse française y compris. Et donc, c'est intéressant, mais il a une résistance et une carapace à tout ça, il avance. Mais c'est aussi qu'un homme, justement, dans ce choix de refuser le Vietnam, Robert Lipsa était avec lui quand il reçoit ce coup de fil.
Journaliste américain du New York Times.
Oui, qu'on a entendu au début de votre émission. Mmh. Et les premières réactions d'Ali, c'est de dire, mais moi, j'ai pas envie d'y aller, moi, je paye beaucoup d'impôts, j'ai de l'argent, j'ai des impôts qu'ils envoient d'autres gars, quoi.
Oui.
mais c'est intéressant parce que, effectivement, il va finir au bout de quelques heures, quand les médias sont à sa porte, par lâcher cette phrase, cette fulgurance, quoi. Ceux-là ne m'ont jamais traité de nègre. Mais au départ, il veut bien qu'on envoie les autres et pas lui. Et puis après, c'est le mouvement Nation of Islam qui lui explique que de toute façon, ce n'est pas sa guerre parce que ce n'est pas une guerre sainte. Et c'est le mouvement qui... C'est dur pour lui de tenir cette position. Il est suspendu, la fédération de boxe le suspend, il n'a plus le droit de boxer.
Pendant 5 ans.
Il est effectivement condamné, alors c'est suspensif, donc il fait appel, il a des frais d'avocat. Et finalement, l'Amérique commence à le détester de plus en plus, alors que lui... Il aime quand même la popularité.
Oui, alors
il est vu comme un traître, hein, oui. à partir de là, qui trahit la guerre menée au Vietnam, alors même que à partir de 68 et 69, la situation commence à mal tourner au Vietnam pour les Américains. Et donc Ali, il trouve aussi aux États-Unis des soutiens moins du côté de la presse ou de la boxe, on lui a enlevé sa licence, mais du côté des universités, parce que c'est du côté des universités qu'il y a aussi les résistances à la guerre du Vietnam. Et donc sa vie, c'est aussi une série de tournées dans les universités où il est applaudi, cette fois-ci, par les étudiants engagés, radicaux.
Et blancs.
Pour l'immense majorité.
Alors, il va perdre lors de son retour en 71 contre Joe Frazier. Hein, ça, c'est... Ali a changé, Ali a vieilli, donc il perd ce match, le championnat du monde. Mais, évidemment, Ali va revenir. 74, Kinshasa, un des combats du siècle, ou le combat du siècle, tout le monde connaît. Pape, vous nous avez dit que vous aviez revu le match, là, il y a quelques jours, en préparation de cette émission. Quel effet ça vous a fait de revoir ce match 74, Kinshasa, Ali Foreman?
C'est presque un match pénible, je dirais. Mm-hmm. Il dure longtemps, jusqu'au KO de Foreman. Mais Ali prend des coups, puisque sa stratégie consiste à se laisser frapper en étant acculé dans les cordes jusqu'à ce que Foreman s'épuise. Mais ça veut dire évidemment prendre des coups comme un boxeur n'en a peut-être jamais pris.
D'une violence inouïe.
Mm-hmm. Et Foreman est connu pour un crochet du gauche effarant qui fait des trous dans les sacs d'entraînement. Et c'est ça que Ali prend pendant des rounds et des rounds avant que Foreman s'épuise et que Ali contre-attaque. Mais c'est un match qui est difficile dans la nuit de Kinshasa. Le match se déroule en pleine nuit par une chaleur absolument incroyable. Enfin, il faut imaginer le contexte général avec Mobutu qui a orchestré tout cela. Dictateur, évidemment, qui essaie de se donner une bonne image à ce moment-là. Donc, c'est un match qui est un match hors norme. Mais je trouve qu'il est presque difficile à voir.
Judith Pérignon.
Oui, il a conscience qu'il n'est plus le jeune champion et il s'est entraîné pour ça, à prendre des coups. D'Angelo, son manager, même a tendance à détendre les cordes pour qu'il puisse et puis ceux de l'adversaire retendre les cordes. Mais il sait que ça va durer. Il s'entraîne à ça. Et quand on sait qu'au fond son médecin commence à se demander s'il n'est pas déjà atteint
de Parkinson,
les premiers troubles en fait apparaissent dans les années 70. On est en 74. Ces coups-là vont faire très mal pour la suite.
Mais justement, la suite, vous dites juste que, en fait, c'est une longue chute, hein, la fin des combats de Mohamed Ali. Il aurait dû s'arrêter bien plus tôt. Des promoteurs sont là, comme Don King, pour faire beaucoup de pognon. Et puis, bon, Ali aime bien le pognon, donc tout le monde fait du pognon, super. Mais vous dites une chose très belle dans le livre. Vous dites qu'en fait, Ali a sans doute voulu périr par là où il était né. et qu'il y a aussi une dimension du choix chez Mohamed Ali, de se battre jusqu'au bout sur le ring, quitte à prendre trop de coups, mais peut-être va mourir de là où on était né, et c'est sans doute très juste.
Ah oui, je crois que, évidemment, l'argent, la gloire, tout ça, mais au fond, c'est, je pense, même dans ce corps qui n'est plus le corps du jeune champion, il y a l'enfant toujours qui rêve d'être champion du monde et il veut pas que ça s'arrête et il en paiera le prix et il n'a dans tous ses écrits après, il a publié, il a regretté des choses mais jamais ça. Mm-hmm. Et même alors qu'il tremble, qu'il est muti, qu'il est très atteint par la maladie, il n'a regretté aucun des combats et il va continuer. Après ce combat de Kinshasa, il va y en avoir d'autres très oui. très durs, oui. très humiliants.
Très violent pour lui, bien sûr, très humiliant. Oui.
Et même ses adversaires l'épargnent oui. presque parce que c'est bah, Mohamed Ali, c'est leur dieu. Il y a ce combat avec Holmes, qui a été son sparring partner, qui le bat et qui après va le voir et lui dit « Mais je t'aime, excuse-moi, mais arrête-toi s'il te plaît. Mm-hmm. » Et il finira par s'arrêter. Mais donc oui, il y a ça qui est... Et on ne peut pas lui enlever ça, oui.
Pape, vous connaissez très bien les États-Unis. Ali est mort en juin 2016, 3 mois avant l'élection de Trump aux États-Unis. Nous sommes en 2020, dans une année chahutée, l'élection revient. Parlons un peu du présent. On imagine bien que le fantôme de Mohamed Ali est là. On n'imaginait pas le retour du suprémacisme blanc, par exemple, aux États-Unis. C'est quand même très particulier. Il y aura un spectre, Mohamed Ali, sans doute, durant cette campagne, non ?
On le voit depuis plusieurs années, puisque la mobilisation de sportifs américains, je pense à Colin Kaepernick, par exemple,
le footballeur américain, quarterback.
Le quarterback, dont la carrière a été évidemment mise entre parenthèses par son geste qui consistait à s'agenouiller au moment où l'hymne américain était joué au début des matchs de foot, mais aussi quantité de joueurs de basket, de joueurs de différents sports se sont mobilisés et la référence à Mohamed Ali d'une part et au sacrifice qu'il a fait, les meilleures années de sa carrière finalement ont sauté en raison de son choix de ne pas aller au Vietnam, à Smith et Carlos aussi, les grands sprinteurs qui lèvent le point ganté
à Mexico
en septembre 68. Ces références-là ont été très présentes dans un monde du sport qui a été quand même prudent politiquement, historiquement, et puis qui est lié aussi par des contrats avec les équipes, des contrats publicitaires qui interdisent normalement la prise de parole. Donc moi, je trouve que la référence à Ali, elle est assez présente au fond dans cette mobilisation sportive depuis le mouvement Black Lives Matter en particulier.
Je dis ce que vous racontez aussi, c'est que beaucoup de gens qui n'ont pas connu Ali, hors du monde sportif, dans le monde culturel, se l'approprient aussi. Dans cette campagne qui va être faite de punchlines et sans doute de clips, etc., vous parlez des rappeurs, par exemple, qui reprennent beaucoup de punchlines d'Ali. Donc Ali continue à vivre dans la culture américaine aujourd'hui de manière très présente.
Américaine, jeune, mondiale, Ali est dans nos cités, Ali c'est des enfants qui étaient loin
oui,
d'être nés,
bien
Ali
sûr.
Est un héros,
oui, oui.
Et je me souviens j'étais en face de la maison où il est né, chez son voisin, un vieux monsieur qui avait 2 portraits sur la cheminée, il y avait Obama d'un côté et Ali de l'autre, et je lui ai dit mais finalement lequel a fait le plus pour vous, et il savait pas trop quoi répondre, j'espérais pas une réponse tranchée, mais peut-être que Ali a fait même plus qu'un président, parce que culturellement, il a infiltré l'histoire, la fierté, les esprits de manière... il a irradié pour longtemps.
Pape Ndiaye.
Un discours de fierté qui est très évident chez Mohamed Ali, dans un sport, la boxe, qui est historiquement le sport depuis l'entre-deux-guerres de grands champions, ou Jack Johnson, même au début du XXe siècle, de grands champions noirs, mais qui étaient en quelque sorte pilotés par leur entourage et puis considérés comme des boxeurs et pas plus. Et Mohamed Ali s'installe dans ce sport qui est le sport quand même populaire par excellence et il en fait quelque chose de politique. Et ça, c'est absolument incroyable. Alors, il est un peu enseveli sous les hommages à partir de la fin de sa vie. Et quand on ensevelit sous les hommages, comme aux Jeux Olympiques d'Atlanta, par exemple, en 96, lorsqu'il brandit la torche...
Il vient allumer la flamme.
Et puis, il a été reçu par les présidents, il a été distingué de mille et une manières. Ça, tout a changé depuis les années 60. La rançon de cela, évidemment, c'est que les aspects les plus abrasifs, politiquement parlant, de sa vie sont un petit peu gommés. Il reste le personnage un peu extravagant, amusant, et aussi le grand boxeur, mais dans le même mouvement, il a un peu été dépolitisé.
Ah oui, il a été complètement. Mais c'est le système américain, l'entertainment, qui absorbe même qui l'a combattu. Mm-hmm. Et justement, vous parliez de Trump, mais Trump, quelques mois avant qu'on est en train de finir ce projet, ses services, je sais pas, ont sorti une grâce de Mohamed Ali. Il a décidé qu'il allait gracier Mohamed Ali, mm-hmm. alors que les tribunaux, tout ça, c'était réglé depuis très très longtemps. Mais il a voulu faire un coup de com' avec Mohamed Ali auprès de la population noire.
On imagine.
Donc effectivement, Ali, il faut jamais oublier à quel point il a déchiré la société américaine, alors qu'effectivement, on en fait maintenant un être trop lisse, qu'il était bien plus intéressant que ça.
Judith, vous avez fréquenté par votre travail, pour Libération entre autres, beaucoup de présidents de la République justement, beaucoup d'hommes politiques importants, des stars de cinéma, d'Hollywood. Et vous dites, j'ai lu dans une interview, qu'en fait, il ne vous reste pas grand-chose de tout ça. Or, c'est très différent avec les gens que vous avez côtoyés là, pour cette série et ce livre. Donc l'entourage d'Ali, vous avez beaucoup vu, les survivants, on va dire. Vous dites qu'en fait, voilà, j'ai pas retenu grand-chose des stars d'Hollywood dans ma vie. En revanche, eux, ils m'ont imprégné. Pour quelle raison ?
Mais oui, alors je voyage beaucoup aux États-Unis depuis longtemps. Et à chaque fois que je discute avec ces gens, qui sont pas des gens très haut placés, mais qui ont croisé cette histoire, qui ont participé activement à ces années-là de combat, notamment dans la communauté afro-américaine, je me sens à chaque fois vibrée. J'ai l'impression qu'ils infusent quelque chose d'une très grande humanité. Ils ont encaissé beaucoup. Ils vous offrent encore très généreusement leur histoire, leur combat. J'estime que j'ai une chance inouïe. Si j'ai fait cette comparaison, c'est que rencontrer les puissants, ça fait rêver beaucoup de gens, ça vous laisse pas beaucoup de choses. Alors que ceux-là, moi, à chaque fois, je me sens très privilégiée d'avoir passé une heure ou deux avec eux.
Oui, je partage ce point de vue. C'est le sentiment, chez beaucoup d'Afro-Américains, de faire partie d'une grande histoire. C'est-à-dire d'avoir souffert à travers des épreuves effroyable, l'esclavage, la ségrégation, mais d'avoir en même temps construit une histoire de résistance avec des moments extraordinaires, avec des figures glorieuses, avec des héros finalement.
Et une fierté.
Et une fierté qui est évidente. Et Mohamed Ali, c'est un héros du monde noir.
En tout cas, merci à vous deux d'être venus ce soir. Je rappelle, vous pouvez lire L'Insoumis, livre consacré à cette Amérique de Mohamed Ali. C'est signé Judith Pérignon, une coédition Grasset France Culture. Et procurez-vous également La Condition Noire chez Folio Gallimard et Une histoire de Chicago passionnante chez Fayard, deux livres sous la plume de Pap Ndiaye. Merci beaucoup à vous deux. Ne quittez pas l'écoute, car voici le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Bonsoir Joy.
Bonsoir Colin, bonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on dans ton Give Me Five ce soir ?
Eh bien on commence avec une histoire du mois de décembre, parce que ça fait quelque temps qu'on s'est pas vu. Bonne année d'ailleurs. Alors un big up de 2019 à une femme, à Fallon Sherrock, 25 ans, une Anglaise, la première femme à battre un homme dans un championnat du monde de fléchettes. Eh oui.
Sport mixte donc.
Sport mixte, dans une compétition mixte. Incroyable. Oui. Je n'en reviens pas. Je n'arrive pas à croire que je viens d'écrire l'histoire ce soir. Je l'ai fait pour toutes les filles, c'est hallucinant. Voilà ce qu'a tweeté la jeune championne. Et voilà, c'est vrai.
Et oui, c'est vrai. C'est donc une compétition de fléchettes. Super. Et sinon, un autre hommage universel à un génie de la littérature et du sport, Albert Camus.
Ouais. Le 4 janvier 1960, Albert Camus nous quittait. Et tout ce mois, nous allons donc célébrer le 60e anniversaire de la mort de l'auteur de L'Étranger. Et si la passion de l'auteur algérois était bien entendu la littérature pour laquelle il a reçu le prix Nobel en 1957, Camus était aussi un footballeur de talent que la tuberculose a détourné des terrains, mais dont il parlait toujours avec amour. Comme ce jour par exemple de match Paris-Monaco, où Camus se prenait de pitié pour le gardien du Racing. Écoutez.
Dans un parc des Princes, archi-comble, le Racing Club de Paris, culotte noire, reçoit Monaco, et sur une première descente monégasque, Roy saute à côté.
Cependant, les caméramens des actualités françaises découvraient, spectateurs parmi les 35 000 spectateurs, Albert Camus, prix Nobel 1957. Et les malheurs du goal du Racing allaient trouver chez Albert Camus l'indulgence d'un confrère.
Dites-moi, le goal du Racing n'a pas l'air dans une excellente forme.
Oh, il ne faut pas l'accabler, c'est quand on est au milieu des bois qu'on s'aperçoit que c'est difficile. Vous avez joué goal, je crois.
Oui, j'étais goal au Racing universitaire algérois qui portait d'ailleurs les couleurs du Racing Club de Paris.
Voilà, J'aime Camus, j'aime le foot.
Et oui, et la littérature.
Aussi.
Aussi. Toujours une grande indulgence hein, chez Albert Camus. À noter que Folio Gallimard réimprime donc les œuvres de Camus à l'occasion de l'anniversaire de sa disparition. Quoi d'autre, Joy ?
Bon, alors plus anecdotique, hein, là, oui. Je vous préviens tout de suite. Oui. Le PSG produit son propre jus de poire.
Et voilà.
Voilà. L'Olympique Lyonnais s'était mis au miel depuis plus d'un an. Hein. Et bien aujourd'hui, le club de foot de Paris Saint-Germain se lance dans la production du jus de poire. Le PSG explique cette décision par son ambition d'être un club en moteur de matière d'excellence sur le plan environnemental, notamment en valorisant une agriculture biologique, bien sûr, respectueuse de l'environnement. Ces deux vergers comptent plus de 2800 poiriers et 7 variétés de poires différentes, âgées de 30 à 50 ans, le tout en voie de conversion vers une agriculture 100% bio, Colin. Voilà.
Aucun opportunisme là-dedans, bien sûr.
Mais non.
Et sinon, un joli cadeau d'étrenne, mais raté.
Que l'on doit au club de l'AS Nancy-Lorraine. Oui, oui. Alors, pour sa carte de vœux 2020, dévoilée sur le site du club, l'ASNL a voulu innover avec un plan du Grand Nancy et le stade Marcel Picot en évidence, accompagné de coordonnées GPS et du slogan « Ma place est ici ».
Donc au stade, a priori.
Au stade, pourquoi pas. Bonne idée. Hein ? Sauf que l'innovation a tourné à la boulette, la grosse boulette. Parce que les coordonnées inscrites sur la carte de vœux ne correspondent pas du tout à l'adresse postale de Marcel Picot, le stade hein, donc, qui est 90 boulevard Jean Jaurès à Tomblaine, mais elle renvoie au 18 route de Mirecourt à Vendreuve-les-Nancy, route qui longe le cimetière,
et
cimetière
oui.
du Sud. Voilà.
Ma place est ici. Et pour finir, Joy.
Un film, ça s'appelle Une belle équipe. C'est un film de Mohamed Hamidi qui était réalisateur du film très réussi, hein, La Vache. Vous vous en souvenez sans doute. Alors, le pitch, après une bagarre, toute l'équipe du foot de Clourière est suspendue jusqu'à la fin de la saison. Et afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Alors, en gros, voilà, c'est comment les femmes peuvent jouer au foot, aussi bien que les hommes, bien sûr, changer les mentalités et même faire évoluer un sport dans lequel, franchement, on ne peut pas dire qu'on les attendait vraiment. Hein. Donc, par les temps qui courent, tout ça, on prend, d'autant que le casting est très touchant. Allez-y.
Absolument, une belle équipe de Mohamed Hamidi avec donc Céline Salette, Kad Mirad et Alban Ivanov dans les salles de cinéma. Merci beaucoup, Joy.
Mais de rien.
Salut, à la semaine prochaine.
Bye.
Et voilà, cette émission a été coachée ce soir par H2M, bien sûr. Henri-Marc Mutel, merci. Marco, assisté ce soir à la technique de Juliette Delperroux, merci à elle. Merci à toute l'équipe de l'œil du tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi. Merci à Thierry Dupin pour la programmation des Scud et à Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Twitter, évidemment, et sur franceinter.fr, bien sûr, pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec le dernier loup de mer. Oui, le dernier loup de mer, Jean-Luc Vandenet, 74 ans. Il vient de nous raconter ses périples au long cours, 11 Cap Horn au compteur. C'est un record. Dimanche, il sera avec nous, ce Jean-Luc Vandenet, navigateur, mathématicien. D'ici là, passez une excellente soirée et une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.